Bonjour, je suis Pierre-Alain Trévelot, je suis architecte de l'agence TVK à Paris.
Alors, concevoir ou imaginer peut-être, ou percevoir plutôt la Terre comme une architecture, ça demande quand même un effort intellectuel ?
Oui, c'est un titre qui est volontairement un peu interrogatif, un peu provocateur aussi peut-être. L'idée, c'est évidemment pas de penser la Terre comme un artefact et d'essayer de dire qu'il faudrait que de plus en plus les humains s'approprient et transforment la Terre comme leur artefact, mais au contraire de dire que la Terre est une architecture au sens où elle est une mise en forme permanente par les forces, les puissances de la Terre elle-même, indépendantes des humains, mais aussi par les humains qui font partie de la Terre. Ils ont peut-être eu tendance dans l'histoire à se penser comme extérieurs, voire parfois comme propriétaires de la Terre. Et au contraire, aujourd'hui, les philosophies et les penseurs contemporains nous ont bien fait comprendre que c'était une impasse et que les crises dans lesquelles nous étions plongés nous amenaient à nous réinsérer dans la Terre, à nous penser comme de façon impossible à nous extraire de la Terre. Donc la Terre est une architecture parce que finalement l'architecture n'est pas cette activité des humains et seulement des humains qui s'approprient la Terre, et l'architecture n'est pas ce qui est posé sur la Terre. L'architecture, c'est de la Terre elle-même. Et l'architecture, finalement, c'est le corps à corps de la Terre et des humains en permanence.
On va dire que la matière Terre s'intègre dans les architectures urbaines, notamment, et donc, en fait, les villes, c'est de la Terre.
Exactement. Les villes sont de la Terre. Alors, c'est une œuvre que vous pouvez voir au Palais des Beaux-Arts, une sorte de très grande terre fictive, qui est une terre rectangulaire et horizontale et en volume. Ça n'est pas une sphère. On sort de cette vision de la sphère et on peut s'approcher, on peut la toucher, on peut la voir avec une mise en perspective. Et ça correspond à un petit livre qui est le double, le diptyque de cette œuvre, et ça raconte justement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que les villes, les bâtiments, sont extraits de la matière terrestre. Par exemple, on raconte dans ce livre, dans le troisième chapitre, toute l'histoire du bassin parisien, et comment est-ce que l'on extrait des matières terrestres, des pierres, du bois, de la terre elle-même, de l'argile, pour édifier nos villes, nos cathédrales, nos maisons, nos habitations. Et finalement, de ce point de vue-là, la ville est une terre soufflée. Comme des êtres vivants, des insectes ou des oiseaux iraient habiter nichés dans les arbres, en se faisant des cavités, eh bien, nous habitons la terre. Alors, pas uniquement au sens des grottes préhistoriques, au sens de grottes que nous aménageons, mais la ville est une terre soufflée.
Alors justement, dans ces villes, on voit d'immenses bâtiments, parfois des immeubles incroyables, mais ils sont tous régis par les lois de la nature, et notamment la verticalité, ou du moins, je veux dire, l'attraction terrestre peut-être.
La pesanteur. La pesanteur est la définition fondamentale, évidemment, des lois terrestres et des lois de la construction. Parce que l'architecture, c'est une question de construction, de mise en forme. Et mettre en forme, il n'y a pas que les êtres humains qui le font. Prenez une araignée. Elle fait une infrastructure autour d'elle pour habiter, pour vivre. Prenez un oiseau, il fait une infrastructure. Un nid, une toile d'araignée sont des infrastructures. Les humains font des infrastructures. Finalement, infrastructure qui est un terme qui a très mauvaise presse, aujourd'hui peut-être, en tout cas quand on le prend sous l'angle des infrastructures lourdes, voire violentes, que nous avons créées et que nous continuons à créer. Elles ont peut-être meilleure presse quand on parle d'infrastructures numériques, mais encore, on commence maintenant à se questionner sur ce qu'elles sont vraiment. Mais si on prend un peu de recul sur ce terme-là, un peu comme sur le terme d'architecture, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure ? C'est finalement une médiation entre la Terre et les humains. Comme la toile d'araignée est une médiation entre l'araignée et la Terre. Eh bien, on a besoin de ces médiations pour habiter la Terre. Ces médiations doivent donc devenir ou être à la fois terrestres et humaines, à la fois totalement prises du point de vue de la Terre et du point de vue des humains.
Donc, parmi les nombreuses civilisations dans le monde, certaines ont pensé la Terre, ou plutôt l'architecture, les lieux de vie, comme étant inspirés, sinon de la nature, du moins peut-être du cosmos aussi. Je pense à la Chine, par exemple.
Oui, absolument. Il y a des tonnes d'exemples, vous avez tout à fait raison, justement de cette alliance, de cet enchevêtrement, pour reprendre ce terme-là, entre les forces terrestres et les forces humaines. Et alors effectivement, vous prenez l'exemple de la Chine, on raconte dans le premier chapitre du livre, et ça se voit sur cette grande œuvre, la façon dont les astronomes chinois ont, en regardant le ciel, interprété les lignes entre les astres et les étoiles, et ces lignes ont produit des exemples et des motifs, et ces lignes se sont petit à petit appliquées sur la Terre, sont devenues bien sûr des parcours, mais plus que des parcours, sont devenues des géométries, sont devenues des buts à atteindre. Le Soleil, évidemment, a, en se levant à l'est en Chine et en allant vers l'ouest, en se couchant tous les jours à l'ouest pour les Chinois, ont créé une ligne, une sorte d'horizontale qui a amené les humains de plus en plus loin vers l'ouest. Et donc cette ligne, c'est la route de la soie par exemple, est une ligne absolument fondamentale dans l'histoire terrestre. Donc ça, c'est une histoire où on voit bien que c'est la Terre, les forces terrestres en tout cas, les forces du ciel. Quand je dis la Terre, c'est évidemment avec son atmosphère, avec toutes ses puissances. Eh bien, les forces terrestres sont ce qui inspire les humains et sont ce qui font que les humains agissent et trouvent des formes sur la Terre. Donc il faut, je crois aussi, aujourd'hui, penser l'architecture comme une activité qui doit chercher tout le temps comment elle appartient à la Terre. Et beaucoup plus qu'avant, parce qu'on a peut-être, on s'est peut-être de plus en plus décollé de la Terre. Vous voyez, vous citiez les constructions très verticales, très hautes, elles ont cette tentation vaine de s'extraire de la Terre. Eh bien, on ne peut pas s'extraire de la Terre totalement, sauf peut-être à y disparaître.
Alors, c'est vrai que ces projets fous, hein, peut-être excessifs, c'est peut-être aller vers le ciel, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une spiritualité dans l'architecture ?
Alors c'est ce qui est, je crois, assez passionnant pour nous, en tout cas dans le fait que cette œuvre est aujourd'hui présentée, après avoir été présentée à la Biennale de Venise, elle est aujourd'hui présentée pour la première fois en France et ici à Lille dans la salle des tableaux d'hôtel. Et la salle des tableaux d'hôtel, ce sont des peintures religieuses du XVIIe siècle, qui étaient donc des peintures présentées à côté dans les églises et à côté des hôtels. Et notamment des peintres extraordinaires comme cette descente de croix de Rubens. Et évidemment, ce sont des tableaux qui partent de la question religieuse et partent de la question de la spiritualité. Et pour nous, c'était un vrai intérêt de mettre cette œuvre dans cette spiritualité-là pour réinterroger une autre forme de spiritualité. Il y a une spiritualité dans l'architecture, je crois, comme vous le dites, et notamment une spiritualité qui serait celle de justement comment est-ce que l'architecture est un travail de l'esprit pour appartenir à la Terre. Comment est-ce que la spiritualité, c'est celle peut-être dans la tradition de tout un tas de courants spirituels, que ce soit l'animisme ou d'autres, qui essayent de nous faire appartenir à la Terre. Et non pas seulement de penser que un être supérieur serait extérieur à la Terre, mais que la spiritualité est dans la matière elle-même de la Terre et dans les êtres vivants de la Terre.
L'architecture, en quelque sorte, aide l'homme à tenir debout ?
Absolument, oui. Vous avez tout à fait raison. J'en reviens à l'infrastructure, c'est-à-dire que c'est cette médiation entre nous et la Terre qui nous aident à tenir debout, qui nous aident à vivre. On est sans doute notre spécificité comme être vivant, comme animal, c'est on ne voit pas dans le noir ou très très mal. On a besoin de s'habiller, on n'est pas bien pieds nus, on a froid. Donc on a besoin d'infrastructures autour de nous, voyez. On a besoin du feu ou de la lumière pour s'éclairer, on a besoin d'habits. Et donc, on est aussi un être éminemment social parce que quand un jeune être humain naît, ça dure très longtemps avant qu'il soit autonome. Donc il faut qu'on s'organise en société pour être plusieurs à se défendre, à pouvoir se nourrir, etc. Donc depuis l'origine de l'humanité, on développe des infrastructures, encore une fois au sens de médiation entre les humains et la Terre. Et donc évidemment, c'est ce qui nous aide à tenir debout, l'architecture. En tout cas, c'est quand on la trouve belle, quand on la trouve, enfin le côté beau et noble et intéressant de l'architecture, c'est la façon dont elle aide les humains à tenir debout, mais je dirais la Terre aussi à tenir debout. Il faudrait que ce soit ça le but de l'architecture, c'est d'aider la Terre à tenir debout. On pourrait dire la Terre n'a pas besoin des humains pour tenir debout. Je dirais peut-être faux débat, parce que les humains sont sur la Terre.
Donc des murs peut-être pour rassurer et des ouvertures, des fenêtres, des portes pour rêver.
Oui, les deux, bien sûr. Les deux vont ensemble. C'est indissociable. Là aussi, comme les humains et la Terre, ou comme les êtres vivants et la Terre, sont indissociables. Peut-être que les humains ne seront plus sur la Terre un jour, mais là n'est pas la question. Ils y sont aujourd'hui. Et les murs ou les parois sont indissociables de leurs ouvertures. Donc il faut absolument penser l'architecture comme un art de clore, d'enclore, pour protéger, comme la peau, comme le vêtement, protège, mais aussi comme un art de l'échange. C'est l'éloge de la frontière, cher à Régis Debray, qui explique comment est-ce que la peau, qui est la plus belle des frontières, organise les échanges, protège, mais en protégeant, justement, permet le passage et l'échange.
Merci beaucoup.
Merci à vous.